les fêtes de fin d'année et les repas merveilleux qu'elles vont accompagner. Ces fameux repas où on est content quelque part, très content, très heureux de retrouver notre famille, que ce soit celle du sang ou celle que l'on s'est nous-mêmes construite avec le temps. Mais ces repas qu'on redoute un peu également aussi, parce qu'on sait qu'on ne va pas être à l'abri de certaines questions dérangeantes que nous n'avons pas envie d'affronter, auxquelles nous n'avons pas envie d'être confrontés. Des questions comme alors, un petit chéri, une petite chérie, alors, les études, alors, le travail, alors, à quand le mariage, à quand le bébé, à quand si. Ça peut vite être éreintant. Mais si c'est aussi éreintant, c'est parce que, en fait, les questions, ces questions-là, aussi anodines qu'elles puissent paraître, réveillent en nous des insécurités bien plus profondes. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment survivre à ces fameux repas de Noël et comment plutôt les apprécier, en fait, au final. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart Talk avec Rouliette. Installez-vous confortablement ou au contraire, partez pour une petite marche. C'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je ne sais pas du tout s'il va être écouté, entre guillemets, vu qu'on est en plein dans les fêtes de Noël. Donc là, je n'imagine pas les gens qui font des déplacements à l'autre bout de la France ou hors de la France pour aller voir leur cher et tendre. Voilà, j'imagine que ça doit être un peu le rush pour tout le monde ou pas. Mais, comment dire. Pendant cette période, vous voyez, il y a beaucoup de créateurs qui quittent les plateformes pour profiter pleinement en fait de ces fêtes de fin d'année, de ce présent que humainement, collectivement, on s'impose avec grand bonheur une fois par an. Et au contraire, je me suis dit que moi, j'avais envie de revenir à ce moment-là pour les égarés qui déjà seraient seuls pendant ces fêtes, pour dire que voilà, j'espère vous tenir compagnie d'une certaine manière, ou pour ceux et celles qui ne vont pas être seuls mais qui l'auraient préféré. Parce que voilà, va y avoir des questions, va y avoir des confrontations à certaines personnes, certaines situations pendant ces fêtes de fin d'année qui ne sont pas plaisantes. Déjà, j'aimerais vous dire que je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je n'ai pas été présente ces dernières semaines, tout simplement pour la... Dites-vous bien qu'à chaque fois que je ne suis pas présente, à part si je notifie quelque chose d'autre, c'est parce que je n'ai pas de contenu que j'estime assez intéressant à vous proposer. Ça ne va pas plus loin que ça, je suis humaine. Voilà, je sais quand je suis inspirée, je sais quand je peux vous proposer un contenu qui apporte quelque chose. Et ces dernières semaines, j'avais besoin de vivre un peu plus pour vous proposer un peu plus également. Parenthèse faite, parlons de ces fêtes de fin d'année. De voilà, Noël, du réveillon, du jour de l'an, de tout ça. Pendant longtemps, moi, j'ai vécu ces fêtes, en fait, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de personnes, je vais pas dire tout le monde, c'est pas vrai, mais comme beaucoup de personnes les vivent. C'est-à-dire que c'est une tradition qui est ancrée en nous, surtout dans un pays laïque, mais fortement influencé par la tradition judéo-chrétienne, dans lequel, pas faire Stéphane Bern de la France, mais dans laquelle, voilà, notre pays s'est établi. Et c'est vrai que moi, par exemple, je viens d'une famille qui est à, on va dire, 90% athée. Et vraiment, je pense que je pourrais quasiment dire 100% athée. Mais c'est vrai qu'en fait, les fêtes de fin d'année, à connotation complètement biblique, hein, c'est la naissance de Jésus, etc. C'est surtout une bonne occasion, avant tout, de se retrouver en famille. On ne le fait pas forcément souvent pendant l'année. Et les êtres humains, parfois, on a besoin de prétextes et de, comment dire, de dates butoirs pour se rappeler de quelque chose. Que ce soit, vous voyez... la fête des morts en octobre, que ce soit la Saint-Valentin en février, que ce soit Pâques, que ce soit le Nouvel An très clairement et le repas de réveillon et de Noël, ça symbolise des marqueurs où on se retrouve, hors les anniversaires où on fête la vie donc des gens qu'on aime, on se retrouve en mode là, peu importe ce par quoi on est passé, où on est, on va faire en sorte de se retrouver dans un endroit commun pour 2-3 jours et tout, et passer du bon temps ensemble. Et moi, pendant très longtemps, j'en étais super contente de cette fête, parce que c'était l'occasion de retrouver mes grands-parents, que je voyais pas souvent, mes cousins, mes cousines, voilà, de voir tout le monde, en fait, sous le même toit, et de juste manger, de rire, de s'offrir des cadeaux, de voir les parents commencer un peu à hausser le ton en parlant de politique, en parlant de choses et d'autres, avec déjà un bon coup de vin dans le nez, et de finir parfois en chantant, en riant, sur un énième Dijoux, encore une fois, pour les parents, pendant que nous, on joue voilà, entre cousins, cousines, frères, sœurs, etc. Et puis le temps a passé, moi, mes parents ont divorcé, j'avais 14 ans, et quand bien même ça s'est très bien passé, il n'en reste pas moins que la structure familiale n'existait plus, comme je l'avais connue pendant 14 ans. Et quand vous avez un divorce, une fracture familiale, il y a plein de choses en fait qui s'effondrent, et qui se reconstruisent d'ailleurs, qui s'effondrent mais qui se reconstruisent d'une manière différente, ou certaines pas, parce que c'était que des choses qui étaient possibles avec les deux parents ensemble, or ça n'est plus, donc... on ne peut pas reconstruire certaines choses. Et c'est vrai que Noël, ça a été une grande déconstruction, en fait, suite au divorce, parce que on n'était plus l'unité, c'était plus l'unité de la même famille. Il y avait une question de je fais qui le 24 au soir, comme d'habitude, chez papa, mais maman, du coup, a fait quoi? Et puis après, le 25, chez maman, mais ça va être un peu short pour passer de là où est papa à là où est maman. Bref, c'était un peu un foutoir. J'ai commencé à grandir, je pense que quand il nous arrive des épreuves comme ça, parce qu'un divorce, ça reste une épreuve, c'est pas la pire du monde, je parle pour moi notamment ici, mais ça en reste une. Et il y a un peu de cette magie qui a volé en éclats, avec, je pense, le fait de grandir tout simplement, de plus croire au Père Noël. Voilà, j'espère que je ne vais pas offenser des personnes qui y croyaient toujours, mais il y a beaucoup de cette naïveté touchante de défaite qui part, en fait, en grandissant. Et c'est vrai que contribue, on va dire, plutôt à ça, les choses dont on se rend compte en grandissant, qui se passent, qui se disent, surtout, lors de ces repas de Noël. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, enfin, quand on est petit, on nous pose pas non plus mille et une questions. Ça va, l'école, ça va. Alors, t'as un petit chéri, puis c'est tout. Mais c'est vrai qu'en grandissant, il y a un peu plus de pression. De pression sociale, premièrement, qui voilà, n'est pas forcément voulue hein, directement par les familles, mais que nous subissons tous. Le fait est, par exemple, qu'on... Vraiment, là, je parle de gens, quand on grandit. Je sais pas, si on est célibataire, par exemple, à table, on voit tous ces couples, nos cousins, encore une fois, nos cousines, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, je ne sais pas. Et nous, qui sommes seuls, et à nous, à qui on le dit, mais t'as toujours personne, mais comment ça se fait? C'est bizarre quand même, hein. Ou alors, oh, ça va, c'était il y a longtemps ta rupture, tu t'en es toujours pas remise. Il peut y avoir des choses comme ça qui flagellent un peu notre confiance en nous, notre estime en nous, et surtout de nous dire, mais pour quelle raison vous avez voulu que je vienne à ce repas? Est-ce que le but, c'était pas tout simplement qu'on se retrouve en famille? Ou est-ce que c'est l'occasion de faire un procès public sur ma situation amoureuse, ma situation professionnelle, ma situation scolaire, et j'en passe? Et je sais que je me suis toujours beaucoup protégée de ces questions-là moi-même, parfois en y répondant peut-être même de manière un peu trop agressive, voilà, de dire mais il y a d'autres choses à me demander en fait, avant de savoir si je suis avec quelqu'un, depuis quand, s'appelle cette personne, etc. On peut parler de mes passions, on peut parler de ce qui est intéressant, et je peux surtout te retourner la question à toi aussi, avant de parler de tout ça. Et c'est pourquoi j'ai commencé à cultiver pour ces fêtes de fin d'année une certaine forme d'aigreur au fil du temps. Et je regardais ces fêtes comme un festival d'hypocrisie. Voilà. Je voyais ces fêtes comme le fait est de se dire une fois dans l'année, bon, on y va. J'avais l'impression de voir ça comme le rendez-vous des hypocrites. De voir des gens qui, à l'année, ne se calculent pas et parfois même se disent du mal les uns des autres. Enfin, du mal, on s'entend. Et qui, là, sous le coup du champagne, des guirlandes de Noël, des chants de Noël, s'adorent, s'adulent, pour encore mieux se critiquer et se détester le lendemain, de dire « Mais qu'est-ce qu'elle a été bête quand elle a dit ça, quand même ? Qu'est-ce qu'il est bête quand il est comme ça, quand même ?» Et j'ai commencé à vraiment avoir ces fêtes en horreur, et à ne pas comprendre leur but, enfin ne plus comprendre voilà, leur but, parce que je trouvais en fait que ce n'était plus juste la réunion de gens de famille qui s'aiment et qui se sont manqués. Je trouvais que c'était une espèce de farandole de compétition entre lequel des petits-enfants a le plus réussi, lequel des petits-enfants a la situation la plus stable, amoureuse, scolaire, professionnelle, maison, je sais pas. Plein de trucs comme ça. Et je commençais surtout à entendre, en fait, les paroles des grands, les fameuses, hein, parce que la table des petits a sauté avec le temps. Et j'ai commencé à entendre ces paroles-là et à me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Est-ce que j'ai vraiment envie d'assister à ça? Et donc, je me suis posé la question à un moment. J'avais une brèche, moi, en tant qu'enfant de divorcé, de dire « Ah non, mais là, c'est un peu compliqué pour aller ici, tu comprends, j'ai papa et tout, machin », ou l'inverse avec maman. J'avais un peu cette brèche, et il y a plein de fois où j'ai voulu m'échapper, et où j'ai tellement enlevé cette magie parce que j'avais l'impression qu'elle n'existait pas, qu'elle avait été construite de toutes pièces, que ça ne me dérangeait pas d'être toute seule dans mon appart le jour de Noël. Et en soi, ce n'est pas un drame hein, d'être seule le jour de Noël. Enfin, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis juste que ce n'est pas une injonction sociale indépassable, si je peux dire. Moi, j'ai fêté le Nouvel An toute seule, plein de fois. Noël, ça m'est arrivé, le réveillon de Noël, de le fêter toute seule une fois. Au final, au dernier moment, ça n'a pas été le cas. Mais je me préparais à le faire et ça ne me posait aucun souci. Ce que je veux dire, c'est que il y a un moment où la chose m'a tellement agacée que je me suis dit, en fait, je vais me rendre imperméable à la chose pour pas qu'elle m'atteigne, pour pas que les questions m'atteignent au repas, pour pas que la confrontation, la compétition à autrui m'imprègne pendant le repas. Je me dis, genre, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Est-ce qu'un repas, genre juste de quelques heures, vaut après des remises en question de quelques semaines, en fait? Et je me suis posé cette question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, en me laissant un pote de repos. Et puis une fois j'en parle à mon père, voilà, j'étais chez mon père et tout, je raconte Noël, tout ça, à quel point je trouve ça stupide et idiot et hypocrite, est-ce que tu veux. Et je me souviens que mon père il m'a dit, mais Juliette en fait, ce dont tu te rends pas compte, c'est qu'on le sait tous. Qu'on est hypocrite. Alors là, je parle de manière générale, ma famille. Si je vous dire, en même temps, c'est toi, t'as un problème avec ta famille, genre famille d'hypocrites, va. Non, mais je vous parle d'une hypocrisie spontanée. Pour moi, il n'y a aucune famille qui n'est pas hypocrite. C'est impossible. Je vous jure, c'est pas possible. Il y a toujours un côté de oh, dis donc, ta belle-mère, ou oh, ta mère et tout, elle est chiante. Hein. Ou oh, mamie, papy, ouais, quand il a un coup dans le nez, il dit encore des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça l'hypocrisie saine, courante, on va dire. Et mon père m'a dit, mais on le sait tous, puisqu'on est tous humains. Et que tout humain, en fait, la seule chose, c'est pas de ne pas être hypocrite. Encore une fois, je pense qu'on l'est tous à un certain point. Par rapport à des stars, par rapport à des gens qui font tel métier, qui font tel truc. On a tous une forme d'hypocrisie, parce qu'on a tous une forme de jalousie, hein, et on a tous une forme d'aigreur naturelle, comme ça. Le plus important, c'est pas de la laisser nous dépasser au point d'être... insupportable, d'être méchant, d'être offensant, d'être blessant. Et donc mon père me dit, mais voilà, on sait tous qu'on est, on a cette forme de hypocrisie en nous, on sait tous que, oui, il y a certainement un moment dans la soirée où un tel va nous faire chier, pour le dire clairement, va nous faire suer et tout, c'est le jeu de Noël. Par contre, ce rendez-vous, il est immanquable parce que dans l'année, combien de fois tu vas voir ces personnes qui constituent ton noyau aussi facilement? Tant qu'on n'est pas dans des personnes profondément abjectes, profondément malsaines, profondément toxiques, on est juste avec des humains. Et se retrouver en tant qu'humain, une fois par an, ça fait pas de mal. Ça aide à remettre les balances à zéro, ça aide parfois à prendre du recul et à mieux se comprendre et à mieux comprendre les autres et le monde dans lequel on vit, à savoir en premier lieu notre famille. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre de manière beaucoup plus chill Noël, en fait. À y aller... En fait, en n'ayant rien à prouver, j'écoute voilà ce que j'ai envie d'écouter, je n'écoute pas ce que je n'ai pas envie d'écouter, je reste à table si ça me chante, je rentre ou je me mets à l'écart si à un moment ça parle trop fort ou il y a des sujets qui sont abordés qui ne me plaisent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne referez pas le monde à Noël. Et c'est pas si grave. Vous n'êtes pas dans un huis clos, ce n'est pas votre moment de gloire, ce n'est pas le moment d'ouvrir un tribunal populaire parce que les gens partiront comme ils sont venus, dans le simple objectif d'avoir vu leur famille. Si vous voulez régler vos comptes, je vous dis pas après, ne le faites pas, vous êtes tout à fait autonome et grand et je ne connais pas vos familles, vous voyez. Mais pour votre santé mentale, pour votre bien-être mental, si je peux me permettre du coup un conseil qui moi me fait beaucoup de bien, c'est d'y aller sans aucune autre idée derrière la tête de je vais bien manger, bien boire, avoir des gens quand même que j'aime. Et c'est tout. Et je rentrerai comme je suis venue. Sauf que là, j'aurai le ventre plein. Une autre chose également, qui, je pense, donne beaucoup de fil à retordre quand on va à ces repas, c'est que le fait est d'avoir cette confrontation, comme je disais tout à l'heure, à nos pères, donc notre famille, etc., c'est que ça nous met mal à l'aise. C'est une confrontation directe avec ce que l'on a fait ou pas fait cette année. Vous voyez, moi, ce que je n'appréciais pas tellement quand je faisais ces repas-là, c'est qu'on ne parlait qu'en accomplissement. On ne me disait pas « qu'est-ce que tu es en train de faire qu'est-ce que tu aspires à faire ?» En dehors de l'école, bien sûr. C'était « alors, tu as eu ton permis ? Alors, tu as eu ton bac ? Alors, tu as eu ton semestre ? Alors, tu as eu ci, tu as eu ça ?» Et je trouve que ça me renvoyait à une insatisfaction, puisqu'il y avait plein de choses que peut-être j'avais même eu le malheur d'avoir dit vouloir faire, avoir commencé, et qui là me retombait dans la tête. Et encore une fois, je pense que c'est pas nécessairement à blâmer. Les gens vous demandent. La seule chose qui est à blâmer, c'est qu'ils ne demandent que ça. Les discussions de Noël aussi, il faut se rendre compte que si vous n'allez pas entamer un procès public à ce moment-là, vous n'allez peut-être pas également entamer de grands débats sur la vie. Il ne faut pas oublier que les personnes que vous allez voir, j'imagine, voilà, la plupart du temps, les grands-parents, les cousins, les cousines que vous voyez une fois par an, dont vous connaissez qu'à moitié la vie, on va se réduire à des questions simples, parce que c'est ce qu'on fait quand on se voit très peu souvent. Encore une fois, je ne dis pas que c'est un absolu et que vous ne pouvez pas entamer des grandes discussions sur la vie, je vous le souhaite, si c'est votre envie. Mais je sais que moi, j'étais très frustrée par ces questions, fut un temps, et en fait, je me suis rendu compte que c'était des questions anodines qu'on disait à des repas, parce que l'être humain, il est construit comme ça, en fait. Et que moi, mon rapport avec ce que j'avais fait, ce que j'avais entrepris de commencer à faire, ce que je n'avais pas fait, ne devait pas être remis en question par ces fameuses questions justement de repas de Noël, qui sont juste là pour faire la conversation, pour entretenir un lien familial ou autre, si banal qu'il soit. Et c'est ce que j'aimerais vous dire en fait, c'est que ne faites pas de ces moments-là, de fêtes de fin d'année qui existent juste pour rassembler les gens, que ce soit oui, de manière un peu hypocrite parfois, mais qui est surtout humaine, ne faites pas de ces moments un moment de self-sabotage, un moment de douleur pour vous-même, de vous dire, bah voilà, je me rends compte un an de plus que j'ai pas bougé, alors que les gens dans ma famille, ils évoluent et pas moi, non. Allez-y juste en « je vais retrouver ma famille ». Et encore une fois, je ne parle pas au nom des personnes qui ont des familles qui sont très très mauvaises, etc., et qui vont volontairement les mettre dans des positions horribles. Pour ces personnes-là, j'ai une grande pensée pour vous. Peut-être qu'il y a un moment, et je le souhaite quand vous serez plus grand, enfin que vous n'aurez plus cette injonction de vos parents ou que sais-je, direct, parce que vous êtes jeune ou que vous habitez sous le même toit d'y aller, rien ne vous oblige à faire ces repas-là. Rien ne vous oblige, absolument rien. Je sais que c'est facile à dire, que je ne suis pas dans votre position, mais vous ne serez pas un mauvais enfant, une mauvaise enfant, petite fille ou que sais-je, parce que vous refusez d'aller littéralement à l'abattoir avec des personnes qui ne prennent aucune pincette et qui n'ont aucune considération pour qui vous êtes. Voilà. C'était une parenthèse que je trouvais quand même importante à faire. La famille, on ne la choisit pas. Par contre, on peut choisir de la voir ou non, si elle nous convient quand on est grand, qu'on estime qu'elle nous convient quand on est grand, ou qu'elle ne nous convient plus. Donc voilà. Sur ces paroles, j'espère que vous allez passer quand même d'agréables fêtes de fin d'année. Et je pense fort à vous. Et surtout, voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. C'est l'occasion de bien manger, c'est l'occasion de voir des gens que vous aimez, c'est l'occasion de prendre des nouveaux départs pour vous-même. Je parle pas ici de résolution, mais de nouveaux départs pour vous-même. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.